Hey Pascal, je viens de parler de précieux.
Ouais.
Mais là, on va aller parler avec un précieux collaborateur.
Ben oui, puis je suis contente parce que dans le sujet, tantôt, tu as dit, ouais, là, le gang des Blood Family Mafia. Crème, il y a un nouveau gang qui a pris naissance.
Ben oui, on va être donc.
Puis on en parlait, Al Boivin, tu sais, c'est celui qui était recherché à grandeur du Canada et encore là, à grandeur du monde. Ben il n'est plus dans Blood Family Mafia. Il s'est dissocié, lui, de ce groupe-là. Il y a du cran quand même. Hein.
Il y a du cran. On connaît la violence de la Blood Family Mafia.
Ouais. Puis il a décidé qu'il partait, lui, la North Savage Gang.
Savage Gang.
Ouais. Puis North, pourquoi? Bien, on sait qu'il y a du crime organisé. Puis il y a certainement une guerre de stupéfiants qui monte dans le nord du Québec, mais ça prend-tu plus d'ampleur? Mm-hmm. Tu sais, encore, là, hier, deux maisons criblées de balles à cette île.
C'est vrai, t'as raison.
Ça fait-tu partie de ça? Tu sais, on n'en parle pas assez souvent. Ça brasse dans le nord.
Ah oui, ça brasse beaucoup. Et justement, on a la meilleure personne pour en parler avec nous, Pascal Cévé, parce que Roger Ferland, ex-enquêteur au niveau du SPVQ, enseignant technique policière au Cégep Garneau, est avec nous. Roger, comment vas-tu?
Ça va très bien. Bonjour à vous autres.
Roger, merci beaucoup de t'être disponible comme ça de dernière minute. La North Savage Gang, hein, c'est bien ça, Pascal? Je le prononce bien. Ça vient de où, Roger? Puis quand est-ce que c'est né?
Ça fait à peu près un an qu'on en entend parler, à peu près. Là. Depuis, en fait, tous les petits déboires un peu de la gang, quand les BFM se sont fait incarcérer de façon massive, un peu plus, puis que surtout le Pic Turmel a été arrêté en Espagne, ben ça a comme... ça fait comme cette compagnie-là, je ne dirais pas qu'elle a fait faillite, mais c'est un peu ça qui se produit un peu. Là, ils repartent un nouveau groupe, puis entre vous et moi, ils peuvent repartir tant qu'ils veulent. Les policiers, en ce moment, ce que j'aime, c'est qu'on arrête de travailler sa couleur, sa race, sur le modèle. Puis il y a un trafiquant de drogue dans le quartier, on va le travailler. Puis c'est ce qui se passe à la Côte-Nord en ce moment. Les Hells essayent de refidéliser, mais le North Savage Group, ben là, c'est les gens qui voulaient se fidéliser, j'ai envie de vous dire, contre les Hells Angels, que Al Boivin voulait avoir dans son équipe. Ben là, aujourd'hui, je pense qu'il vient de manger un bon coup, là, parce que plusieurs de ses proches viennent de tomber. Puis comprenez-moi bien, ça prend des gars terrains. Boivin, il se cache, là. Ça lui coûte une fortune pendant qu'il est en cavale en ce moment. Ben là, à cause de ça, ça y prend des gars qui y rentrent l'argent, ça y prend des fidèles. Ben aujourd'hui, une partie de ces fidèles vient de se faire arrêter. Fait que la gang, M Gang Saguenay, là, connaissent bien, je pense, leur territoire, leur secteur. On fait une super job avec ça.
Ça lui coûte une fortune, trois petits points, point d'interrogation. Qu'est-ce que tu veux dire par là, le fait de se cacher?
Oui, tout à fait. C'est parce que ça a l'air facile quand les gars disent qu'ils sont en cavale, parce que ce gars-là, il est recherché sur mandat en ce moment. Alors, il faut qu'il se cache. Alors, les moyens, les techniques qu'ils utilisent, font en sorte, puis à chaque fois, je le sais de la bouche des trafiquants quand on les arrête, du passé, là, ils nous disaient, quand je suis en cavale, faut que je sous-doie du monde, faut que je paye un peu plus pour la fidélité, il faut que je me trouve des logements, toujours en argent, il faut que je des cellulaires que je change sans arrêt. Ça y amène énormément de coûts, et pour avoir sa grande discrétion, ça y coûte plus cher. Alors, ça lui coûte une fortune quand on est à l'extérieur. Mais c'est correct, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Mais ça y prend encore des gens qui gèrent sa business. Puis c'est pour ça que là, ils viennent de faire mal à sa business aujourd'hui. Il avait perquisitionné là, quelques semaines, souvenez-vous. Là. Mais à cause maintenant de la cour, on est obligé d'attendre, porter des accusations, d'avoir tout analysé et d'être prêt à le faire. Mais ce matin, il rarrête du monde, il va encore perquisitionner, mais là, il les garde en détention. Ça veut dire que là, ils ont la preuve officielle contre eux, puis ils vont peut-être bonifier par d'autres éléments interrogatoire, des perquisitions à certains endroits pour additionner ça un peu. Et peut-être, notamment, avant longtemps, sur un Boivin.
Mais on se questionnait, Jeff et moi, aujourd'hui, à savoir la façon dont vous avez changé le travail, je vous inclus, là, Roger Ferland, mais bon, la gang de policiers qui maintenant travaillait plus sur celui qu'on pogne au moment où on le pogne versus travailler sur le gang en question, ça permet une meilleure offensive?
Oui, tout à fait. C'est parce que souvent, on s'est fait dire dans le temps du crime organisé à l'époque, mettons quand on parle de Carcajou à l'époque, on était obligé de travailler uniquement toujours quand c'était des membres d'Hells Angels ou des membres des Rock Machines. Si c'était pas des membres directement, on nous autorisait pas, t'avais pas de budget. Là, il fallait que les patrons fassent des pirouettes des fois pour s'élargir sur des collaborateurs. Alors que là, maintenant, on se dit un petit peu. Ça prend, il y a un trafiquant de drogue dans le secteur, c'est lui qui est en train de faire pourrir un quartier, qui est en train de nuire à la communauté. On se met en équipe, puis peu importe. Avant, on était très chauvin aussi encore là. Quel logo de police qu'on allait mettre en avant. Là, je pense que travailler en équipe, regardez, vous voyez souvent les mots Herm, Enerco, Esquad Mix. On va leur dire, va me chercher tes meilleurs joueurs locaux, travaille en équipe, puis arrêtons juste de travailler sur le gars qui est nécessairement un membre. Parce que quand on, c'est sûr que le membre, on voudrait lui imputer une plus grande responsabilité à la fin, parce qu'il y en a une. C'est comme le PDG d'une entreprise. Mais pour faire la démonstration, ça vous prend toujours des témoins experts qui vont venir dire, est-il associé? Porte-t-il le logo? A-t-il un territoire? Il y a toujours des petites spécifications à faire quand on veut déterminer tel individu, il est membre d'un gang de rue, il est membre d'un club de motards, il est membre de... Oui, on peut leur imputer plus de charges, c'est sûr que la loi du gangstérisme a permis, mais il y a une très grande difficulté. Alors que très souvent, j'ai envie de vous dire, allez donc arrêter ceux qui sont des bandits, coupez-leur l'entrée d'argent, puis là, déjà, vous allez changer tout à fait le portrait de la situation.
Pour rappel, on parle avec Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ et enseignant en technique policière au cégep Garneau. Roger, quand on frappe sur deux plans en même temps, c'est-à-dire BFM et Hells Angels, c'est quoi l'impact que ça a comparativement quand on fait juste des arrestations dans un groupe ou l'autre?
Bien, quand on a la chance de synchroniser, comme ils ont fait aujourd'hui, les deux opérations en même temps, c'est beaucoup plus efficace. Je vais vous dire pourquoi, parce que même si on ne veut pas rendre service à l'autre équipe, quand on en arrête une, tu libères un peu le terrain, puis en libérant le terrain, ben il y a des joueurs locaux qui savent qui sont le clan adverse, il est en prison, ils vont lui voler le territoire, ils bouffent la clientèle qu'ils ont, puis ils continuent. Alors que là, tu viens de neutraliser les deux équipes, temporairement, du moins toujours, mais les deux équipes des deux côtés. Alors, en voulant dire, on vous connaît d'un bord ou l'autre, là maintenant, vous allez vous calmer, vous vous ramassez en prison pour un bout de temps, vous n'avez plus d'entrée d'argent. Moi, je trouve ça très bon, très efficace, parce que on travaille pas, nous autres, ni pour une équipe, ni pour l'autre. On est là pour que la paix sociale soit là, puis que la communauté soit plus en sécurité, là, c'est bien clair. Fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun. Quand on peut les combiner de pair, ben chapeau, good job. Puis aussi, oubliez pas, en ce moment, c'est très dur pour les policiers de vous garantir que le gars qu'on arrête est fidèle vraiment qu'il y a eu une organisation. C'est l'argent qui est le nerf de la guerre pour eux autres aussi. Hein. Fait que s'ils sont capables facilement de se faire soudoyer, hein, le prix du kilo est moins cher, moi, te le prendre de toi aujourd'hui, même si là, le prix est rendu très arabais, là, ça fait en sorte que c'est dur de fidéliser même pour eux les gens. Fait que je trouve ça le fun, les policiers en arrêtant deux équipes, de le faire synchroniser, ben tu viens temporairement de donner un bon coup de barre en prenant la bataille.
Je ne sais pas si tu as le droit de nous répondre, Roger, là-dessus, mais est-ce que, parce que souvent on dit que la population n'est pas en danger de quoi que ce soit, mais est-ce que le fait que les tensions soient en effervescence comme ça, puis qu'on en voit aussi dans des régions dont on ne voyait pas nécessairement des coups d'éclat comme des maisons criblées de balles, on a vu ça à Lévis et tout ça, il y a eu des erreurs sur la personne dans les dernières années. Est-ce qu'on est toujours dans le même contexte actuellement?
Le contexte est encore là un peu. Oui, il y a eu une certaine accalmie, là, Pascal. Soyons clairs, là, c'est un peu plus calme que c'était. Mais je dis un peu plus calme. Regardez ce qui se déroule. Si vous regardez hier, il y a encore eu des coups de feu dans la région sur la Côte-Nord. Vous regardez les incendies criminels qui se déroulent à Montréal. Les gens vont essayer d'aller chercher d'autres genres de criminalité à côté pour faire des sous. Fait que là, oui, c'est de l'extorsion des commerçants souvent qui se font, un genre de pizzo qu'ils vont chercher sur le profit de certains commerçants, là, qui est extrêmement, j'ai envie de dire, chien comme méthode, mais c'est
ils prennent n'importe qui. Ils prennent n'importe quel commerçant, pas juste des gens qui sont dans le crime organisé. Là, ils leur font peur, puis ils disent, si vous voulez pas d'incendie chez vous ou autre, vous allez nous payer X montant par mois, c'est ça?
Tout à fait. Oui, parce qu'ils veulent s'enrichir, puis les économies illicites qu'ils possèdent déjà les commerces, ils n'iront pas se taxer eux-mêmes. Alors, ils vont taxer les commerces avoisinants. Ils ont même été, dans certaines années, rappelez-vous, le monde des garages, le monde des prêts automobiles, les vitres teintées. Rappelez-vous, il y a eu toutes sortes d'histoires qu'ils ont essayé. Ils s'infiltrent même dans la construction quand ils sont capables. Mais là, voyez-vous, il y a une façon facile, c'est qu'ils ciblent des commerces. Ils mettent en annonce quasiment sur un type d'Uber, là, tu sais, que les jeunes peuvent aller, je vais faire de l'argent, il faut que je montre que je suis allé mettre le feu à tel commerce. Mm-hmm. Alors, le jeune utilise cette application-là, fait des sous, embarque là-dedans tout de suite, va faire le crime, puis là, ben, le commerçant, ben, là, lui, il se sent victime, puis il n'est même pas capable facilement d'identifier qui est le gars qui est venu commettre le crime versus celui qui a fait les menaces. Parce que il utilise deux genres d'équipes là-dedans. Fait que c'est pour ça que ça aussi, c'est un autre crime qu'il va falloir que dans la région de Montréal, qu'il s'occupe vraiment, sinon ça peut se rendre ailleurs. La chance qu'on a, je vous dirais, dans la région de Québec et dans les régions, le public se connaît. Les policiers ont souvent un bon contact avec la population, les commerçants. Alors, les commerçants ont confiance et dénoncent plus rapidement. sous le couvert d'anonymat dans certains cas, mais ils dénoncent plus facilement. Ça, il faut que ça se continue, il faut que ça se maintienne. Ça, je vous dirais que c'est la meilleure affaire qu'il ne peut pas avoir. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, dans secteur isolé, vous voyez des cas isolés de, je vois pas le terme crapeux, qui se menacent entre eux et qui se tirent dessus. Là. Ça va encore arriver, ça. Là, parce que ça, c'est l'autre problème. Il y a trop d'armes à feu en circulation. Les lois fédérales du régime des libéraux de ces dernières années ont vraiment pas favorisé qu'on contrôle les armes à feu, qu'on contrôle les prisons et qu'on ait des meilleures sentences. Je pense qu'il y a un rattrapage à faire là-dedans, mais on n'est pas encore rendu là-dedans.
Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, enseignant en technique policière au Cégep Garneau. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, Roger.
Ça fait plaisir. Bonne journée à vous.
Salut, Roger. Bonne journée. Alors, toujours intéressant de voir ces frappes policières, Pascal. Depuis un an et demi, certain qu'on travaille très bien en collaboration. Mais c'est à l'infini. Il va y avoir des criminels à l'infini, puis il va toujours falloir continuer.
Puis tu sais, ça, c'est souvent la question qui revient aussi. Pourquoi est-ce qu'on en crée? Comment est-ce qu'ils sont créés? D'où ça part? C'est souvent des gens qui ont besoin d'argent rapidement, puis c'est dès qu'ils sont jeunes qu'on les a recrutés ou qu'on les a désensibilisés à tout ça.
Du gain. Hein?
Puis avec les réseaux sociaux, c'est super triste de voir que c'est encore plus facile maintenant de le faire là, avec les jeunes parce qu'ils se comparent à ce qu'ils voient. Bon. Puis le sentiment de gang aussi, de faire partie d'une gang, tu sais, ça part de des affaires super stupides quand on les regarde vite comme ça, mais qui finalement sont fondamentales chez l'être humain.
Ah oui, et on cible justement le petit ado isolé un petit peu plus socialement. Puis on disait, regarde, on va être tes amis, tu vas faire partie d'un gang, let's go, on y va.
Pendant mes vacances, je lisais, puis j'ai terminé le livre justement de Roger Ferland là, sur Opération Scorpion, qui est sorti avec Maria Mourani. Ce qui me fascinait, c'est que là, on parlait d'Opération Scorpion, donc le réseau de prostitution juvénile chez les jeunes, avec des personnalités connues, des gens d'affaires ici à Québec il y a quelques années. Puis tu sais, je me rappelle avoir écouté l'entrevue de Roger Ferland avec Denis Gravel aussi pour les grands événements. C'est disponible en passant sur YouTube là, encore, le YouTube de Boulevard. Mais dans son livre, il dit très bien, il dit, il y avait un grand réseau aussi de prostitution juvénile chez les jeunes hommes. Mais il dit, ce qui ne nous a pas nécessairement permis d'aller très loin dans ce genre d'enquête-là, c'est que les jeunes hommes ont une honte d'avoir été, puis pas que les jeunes femmes en ont pas, mais une honte supplémentaire d'avoir été pris dans un réseau comme ceux-là, parce que pour plusieurs, ben, c'était des hétérosexuels et tout ça, mais ils se faisaient enrôler.
En effet.
Puis ils devaient assouvir les pulsions sexuelles d'hommes matures. Fait que pour eux, c'était un gênant de dire qu'ils sont allés là. Fait qu'il y avait de la misère à témoigner, il y avait de la misère à en parler ou d'aller porter plainte à la police. Fait qu'il y a des choses aussi qui se passent autour de nous qui ne sont pas rapportées, parce que crime, en plus d'être pris dans quelque chose, il y a le grand sentiment de honte qui est peut-être encore plus important dans ce genre de situation-là. Moi, ça m'a vraiment subjugué, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la prostitution chez les jeunes filles, mais il y en avait à Québec et il y en a assurément encore.
Oui, avec des jeunes garçons, malheureusement, qui sont démunis, défavorisés.
Ils prenaient dans la rue, puis tout ça, puis c'était des jeunes garçons qui avaient effectivement pas d'encadrement familial.
Vraiment, laissés à eux-mêmes.
Ah, Seigneur, c'est d'une tristesse, là.
Oui, carrément, d'une tristesse inouïe, puis c'est vrai que la honte est plus présente, malheureusement.
Il écrit qu'il avait croisé dans un Costco, ici à Québec, à un moment donné, quelqu'un qui faisait de la vente, tu sais, dans des kiosques du milieu, là.
Oui, oui.
Puis il a dit, monsieur, je vous connais, vous êtes monsieur Ferland. Oui, oui. Oui, oui. Il dit, je vous remercie. Je vous remercie de faire le travail, parce que moi, j'ai été un jeune abusé, pris dans ce réseau-là. On n'a jamais pu parler. Puis mes confrères et moi, on a eu des vies difficiles par la suite. Plusieurs se sont enlevés la vie en pensant que ça avait besoin d'aide. Les services sont toujours là.
Oui, hein. 1-866 appelle.
Puis il a pris le temps de remercier Roger Ferland comme ça dans un Costco pendant qu'il passait. Mais ça témoigne de beaucoup de choses, tu sais. Il n'a jamais porté plainte, jamais allé plus loin, parce qu'il se disait, je suis trop honteux.
Oui, en effet. Après la pause, on parle avec Lambert Drainville. Est-ce qu'un nationaliste comme Lambert Drainville, Pascal, a été aussi impressionné par le discours de Mark Carney? Et qui va se présenter finalement à la chefferie de la CAQ?
Tu vas là avec M. Lambert Drainville?
On va aller là. On va aller là. On n'a pas le choix. C'est un chroniqueur politique avant tout.
Faut ce qu'il faut.
Exactement. Restez les noms. Vous êtes à l'émission d'Argent sur l'antenne de Boulevard 102.1.